fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, un nouveau volet de l'émission Mode d'emploi animé par la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec, pour présenter l'émission, Mathieu et Corentin. Bonsoir. Claude à la technique. Le monde du travail a beaucoup évolué ces 40 dernières années. Alors au début, je voulais dire 40 dernières années, près de 10 dernières années, et puis en fait, peut-être depuis toujours, mais il y a quand même un fait marquant qui est l'industrialisation qui a mis un coup de pied dans l'automatisation et qui a fait disparaître bon nombre de métiers que les plus jeunes de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas, opérateurs téléphoniques, travailleurs à la chaîne.
Nous non plus, hein, d'ailleurs.
C'est ça. A-t-on vécu ça ? Et d'ailleurs, ce ne sont que les plus emblématiques. Tous les métiers sont maintenant touchés d'une façon ou d'une autre par l'automatisation, l'informatisation. Et cette trajectoire se prolonge du coup directement sur beaucoup de métiers. On évoquera voilà le cas le plus classique que tout le monde entend, les caissiers, où il y a 60 ans, il y avait deux personnes par machine. Et maintenant, avec les codes-barres, une personne, et on commence avec les caisses automatiques à même voir des caissières gérer 20 machines. Et Amazon a tenté des magasins sans aucun caissier. Donc, est-ce que c'est cette trajectoire-là qui se dessine ou non ? Donc, tous les métiers évoluent avec la technologie. Ce soir, je vous propose de discuter de tout ça. Quel est l'impact de cette automatisation sur le travail, sur les travailleurs ? Quel sera notre marché du travail de demain ? Quel est celui d'aujourd'hui ? Où s'arrêtera la montée en puissance de la machine ? Alors, on n'est pas dans Terminator avec cette superpuissance, mais il y a un vrai impact de la machine sur notre travail au quotidien. Et du coup, un point si peu abordé par le grand patronat qui est le social dans notre travail, comment va-t-il évoluer dans tout ça ? Autant de questions que nous souhaitons aborder ce soir avec nos invités. Bonjour à Frédéric Luteau.
Bonsoir.
Vous êtes ancien membre du bureau national du Parti Socialiste, si
c'est
je
ça,
me trompe.
Exactement.
Et membre actif du réseau salarial Île-de-France.
Voilà. Et de GDS aussi, donc Gauche démocratique et sociale. Voilà, un courant animé par Gérard Filoche. Voilà.
Merci. David Gaboriou.
C'est ça.
Chercheur en sociologue du travail, vous avez mis en place, vous avez travaillé en tout cas sur une thèse sur les usines et à colis. Le thème était la trajectoire ouvrière des entrepôts de la grande distribution. Et dans ce cadre-là, vous avez aussi fait le travail d'intérimaire dans plusieurs entrepôts de logistique et on en discutera tout au long de cette émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous rappeler que vous pourrez également réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin sur RFPP ou la podcaster comme toutes les précédentes sur le site internet de la Fondation Copernic et celui de Mode d'emploi.
Donc ce soir, on va parler d'automatisation, de mécanisation, de robotisation, en fait de progrès techniques et de tous les impacts que cette automatisation peut avoir sur les travails, sur les travailleurs, sur à la fois dans les dimensions individuelles au travail et dans la dimension collective sur l'emploi. David Gaboriou, vous êtes sociologue du travail, peut-être pas dans votre thèse sur vous avez comme terrain la logistique, mais peut-être plus dans vos études, vous avez dû travailler sur ces concepts et sur ça a toujours existé plus ou moins depuis, ça s'est accéléré au fil du temps avec les progrès dans l'agriculture et dans l'industrie. Quel est vous pouvez donner un petit point de vue historique avant de débuter proprement parler sur les conséquences sur les travailleurs et sur l'emploi.
Alors oui, on pourrait dire que l'automatisation, elle a toujours existé. Si on considère qu'automatiser, c'est remplacer la force de travail, la force humaine, par des machines, et on pourrait citer comme exemple la vapeur qui remplace la force humaine. Et de plus en plus, on a l'impression qu'on remplace non plus seulement la force humaine, mais aussi l'intelligence humaine. Mais de dire que ça a toujours existé, ça peut être un peu trompeur. Il y a quand même un basculement important à partir de
la question d'intensité. Les progrès étaient quand même beaucoup plus lents pendant des siècles et des siècles. Et on va dire depuis deux siècles, depuis le début du 19e siècle, ça s'est fortement accéléré.
Il y a quand même un moment où l'industrialisation change tout ça, où ça devient appliqué à échelle massive dans des univers industriels, et là ça change la donne. Et peut-être que le basculement vers l'industrialisation, il est plus fort que celui qu'on présente aujourd'hui vers de la robotisation. En tout cas, sur la trajectoire historique, il n'y a pas de basculement majeur dans la dernière époque. Par contre, il y a un vrai basculement à partir du moment où ça devient un monde industrialisé. Et aujourd'hui, on serait plus dans la continuité de ça.
On quitte l'atelier pour l'usine, et c'est plus du tout la même ampleur, et du coup, les conséquences sur les tâches elles-mêmes, sur les métiers, c'est peut-être plus fort, vous trouvez, que ce qu'on peut décrire aujourd'hui.
Et ça va de la petite tâche qui est automatisée, donc la définition, ce serait plutôt ça, sur une tâche précise, et à un mouvement plutôt d'ensemble.
Une tâche précise, on entend quoi pour illustrer ça ?
Un geste, par exemple, un geste ouvrier qui va être fait par une machine. Souvent pas entièrement, ça va être une partie de ce geste-là, et l'ouvrier ou n'importe quel autre salarié va faire ce qui reste une fois que la machine fait une partie du travail. Ce qui reste, c'est des fois mieux, c'est la bonne partie du travail, des fois c'est la pire partie du travail. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le côté précis sur une tâche précise, et après c'est aussi un mouvement d'ensemble de la société, peut-être pas d'automatisation, mais plutôt d'industrialisation de la société, et ça va impacter nos modes de consommation, voire jusqu'à nos manières de penser, et là on peut évoquer des mouvements plus globaux, mais là on n'est plus vraiment dans l'automatisation au sens précis.
Et la naissance de l'industrialisation, du côté des travailleurs impactés en premier, dans le monde ouvrier, est-ce que c'est ressenti comme on se fait un peu voler son travail, ou du coup, parce qu'il y a quand même un aspect aussi de libéralisation de certaines tâches pénibles, il y a qui nécessitaient une forte force physique, il y a quand même certaines... certains gestes comme ça qui sont éliminés, mais de l'autre côté...
Il y a ce côté-là, mais ça, c'est ce qu'on voit très longtemps après. En fait, quand les gens ont subi de l'automatisation, de la mécanisation dans les époques dont on parle, au 18e, peut-être plutôt au 19e siècle, c'est pas vraiment comme ça qu'ils l'ont vécu. Hein. Ce qu'on voit en premier lieu, c'est pas forcément l'impact direct de la machine, mais le fait qu'elle va... sur la libération du travail, mais le fait qu'elle va modifier concrètement la tâche qu'on fait tous les jours, et j'ai dit pas toujours en bien, et peut-être un peu plus largement sur le fait, et là je fais référence à un mouvement très connu qui a lutté contre les machines, les ludites, avec des répercussions en France aussi au 19e.
Vous pouvez nous en dire un tout petit peu, c'était un ensemble de personnes qui se sont opposées de façon forte à...
Au Royaume-Uni,
c'était au Royaume-Uni, puis il y a eu
là
des
où
cas...
est né en premier lieu la révolution industrielle.
Il y a eu des cas aussi en France. Alors c'est pas un mouvement d'ensemble, c'est pas des gens qui se revendiquaient de ce mouvement-là, mais historiquement on l'a défini comme ça. Et ce qui était très fort dans ce mouvement,
c'est des expériences locales, pas forcément reliées entre elles. La communication n'était pas la même à l'époque, mais en tout cas il y avait eu de nombreux cas comme ça de mouvements d'opposition à cette à la mécanisation, et il y a même eu des cas où on appelait aussi les briseurs de machines, c'est ça?
Voilà, ça se concrétisait parfois par la destruction de machines. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas seulement la critique de la transformation d'une tâche ou seulement de la disparition de métiers. C'était plus largement la critique d'un changement de société. C'est-à-dire que l'imposition de machines, surtout dans le textile, en fait, ça partait surtout de là. Elle changeait le cadre de vie quotidien des personnes. On passait d'un cadre domestique où on faisait beaucoup de tâches dans le textile à la maison, à un cadre industriel. On faisait des tâches dans des ateliers. Et ces ateliers, ils étaient relativement horribles. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour le dire. Et c'est ce basculement-là. Ils existent dans d'autres domaines ou dans d'autres pays. Mmh. Et voilà, c'est ce mouvement-là de transformation de la société qui était critiqué, et pas seulement l'introduction d'une nouvelle machine.
Très bien. Et du coup, le ressenti à l'heure actuelle, est-ce que vous avez une vision du ressenti du travail, de cette automatisation par les populations actuelles? C'est-à-dire, il y a des évolutions, il y a un marché du travail qui évolue. Est-ce qu'il y a encore des mouvements de ce type-là qui se battent contre cette volonté d'automatiser?
Je réponds.
Oui.
Oui, Il y a eu une époque, effectivement, il y a même des ouvriers qui détruisaient leurs machines parce que c'était la source de leur aliénation, déjà par l'intensification du travail que ça mettait en œuvre. Et puis ensuite, bah, évidemment, c'est le sentiment d'être remplacé. On n'a plus ce genre de phénomène aujourd'hui, je pense pas, parce que il faut voir l'automatisation comme une chance. Si on remplace des tâches répétitives, ingrates, pénibles par des machines, c'est tant mieux. Après, c'est savoir comment on répartit le travail restant sur l'ensemble de la population active. Voilà. Mais il y avait un domaine, parce que c'était intéressant, on a parlé de l'histoire, là, et j'aurais bien aimé avoir aussi l'avis de David sur la question, parce que je suppose qu'il a dû étudier les choses, mais on parle aujourd'hui de troisième économie, hein, avec l'avènement de l'économie collaborative. Hein. Il y a eu l'industrialisation avec la machination, et puis il y a eu l'informatique qui est arrivée, et là on parle carrément de troisième économie avec l'économie collaborative liée à la mise en réseau, hein, de l'information. Voilà, qui permet de créer aussi des économies en ayant un accès à l'information. C'est le big data, c'est tout ça. Voilà. Et là, ça impacte d'autres types de populations actives. C'est plus simplement les OS, c'est plus simplement les ouvriers, c'est plus simplement l'informatisation de certaines tâches. C'est aussi l'intelligence artificielle, c'est la mise en réseau de l'information. Et là, tout d'un coup, on a aussi des économies. Voilà, des gains de productivité qui sont très importants. Et là, on touche les cols blancs, on touche les cadres, on touche un certain personnel dirigeant. Ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Peut-être plus, ça intensifie aussi le travail. Hein. On sait que une des premières sources, par exemple, de stress des cadres, c'est le mail. Hein, voilà. Bon, on arrive à des économies d'échelle aussi très importantes. Voilà.
Des économies d'échelle de quelle nature, par exemple ?
Eh bien, moi, j'ai pas vraiment étudié là dans les spécificités, mais les études qui sont données, ça va dans le domaine médical, ça va dans le domaine administratif, ça va dans le domaine de la gestion, ça va dans le domaine de la mise en réseau d'informations, c'est-à-dire que là où il fallait effectivement des relais. Pour accéder à des banques de données, à un savoir, etc., ben, il est immédiatement accessible. Ça va, il y a plein de domaines comme ça qui sont, que ce soit dans le, je crois que les assurances, je pense que peut-être David connaît ça mieux que moi parce qu'il a étudié, et ça a été peut-être l'objet, un des chapitres de sa thèse, j'en sais rien.
Oui, alors on peut, je vais peut-être citer un cas très concret de mise en réseau. Qui du coup donne un exemple un peu contradictoire. Moi, je trouve que quand on parle de mise en réseau, nous, on voit un petit peu l'usage domestique qu'on en a, d'échange d'informations avec Facebook ou des choses comme ça, et ça a l'air très sympa. Dans le monde du travail, ça ne l'est pas autant. Une mise en réseau concrète, c'est par exemple ce qui se passe dans la grande distribution. On n'est pas dans des métiers d'usine. On est sur la grande distribution, c'est pas de l'usine, c'est des services. Sauf que grâce à un logiciel, on arrive à connecter une caissière qui flash le produit dans le magasin, un ouvrier dans un entrepôt, qui a une voix numérique, ça s'appelle la commande vocale, qui lui dit le colis qu'il doit prendre parce que la caissière vient de le flasher, et du coup va falloir le livrer dans le supermarché. Entre les deux, il y a un chauffeur routier qui est connecté à un GPS et qui fait le trajet. Et là, on a trois métiers différents qui est tracé, tous sont tracés. On a trois métiers différents qui auparavant étaient séparés, qui se retrouvent connectés grâce à la mise en réseau. Et au final, cette mise en réseau, c'est une mise en chaîne. Ces métiers, ils se prolétarisent avec le réseau et grâce à l'informatique. Donc il faut aussi regarder ce genre de répercussions et pas toujours voir un peu des usages domestiques un peu sympas, un peu sexy qu'on a au quotidien, parce que concrètement il y a aussi beaucoup de prolétarisation du travail avec l'informatique et aussi une disparition de certaines tâches administratives. Alors vous l'avez dit, hein, il y a des gains de productivité dans les tâches administratives, mais cette disparition des tâches administratives dans un secteur comme celui que j'ai étudié et dans d'autres secteurs, moi c'était la logistique, elle fait disparaître des postes qui étaient plutôt intéressants, des postes où on avait pas mal d'autonomie, qui n'étaient pas des postes ouvriers. Aujourd'hui, dans des entrepôts, il y a de moins en moins de postes administratifs, ce qui fait que les ouvriers n'ont plus de possibilité d'évolution de carrière. Ils sont bloqués dans un poste ouvrier répétitif avec une machine qui leur donne des ordres.
C'est-à-dire sur les tâches plus physiques qu'intellectuelles.
Voilà, en fait, ce qui est resté, c'est les tâches physiques, celles qu'on fait avec les mains. Donc, dans ce cas-là, c'est une prolétarisation des tâches qui deviennent de plus en plus qui ressemble de plus en plus à des tâches d'usine avec le côté Charlie Chaplin. On fait des gestes répétitifs et prolétarisation du milieu de travail en général, puisqu'en fait les tâches autres que les tâches ouvrières, elles disparaissent sous l'effet de l'automatisation. Donc
ça, c'est un point intéressant, parce que l'automatisation, le premier réflexe, je pense, de tous nos auditeurs, c'est de se dire l'automatisation, c'est supprimer des tâches complexes pour laisser les tâches intellectuelles ou plus faciles, en tout cas physiquement, à l'homme. Et là, dans l'exemple qui est cité, c'est plutôt le contraire.
Alors, c'est pas un cas forcément général, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une entreprise de communication très très forte, qui est aussi une entreprise idéologique, qui consiste à dire que le progrès technique fait disparaître les tâches pénibles. Cette entreprise, elle est très très ancienne, elle est présente dès les débuts de l'industrie. Un des grands théoriciens des débuts de l'industrie, c'était Andrew Ure. Dès 1835, il explique que l'usine rêvée, l'atelier rêvé, c'est un atelier où on pourrait se passer des mains des ouvriers. Et ça, c'est en 1835. Ce discours-là, il a été répété sans cesse et sans cesse depuis. Et il y a toujours ce mirage d'une usine sans pénibilité, sans ouvriers, sans effort, grâce au progrès technique. Il est permanent, il est toujours, toujours dicté, toujours énoncé. Et plus on s'en approche, plus le mirage s'éloigne. Et en fait, ça n'arrive jamais.
Ce mirage-là, c'est quelque chose qui vous parle, qui est utilisé par le grand patronat pour dire continuez à travailler un petit peu, c'est dur, mais on va vers de l'automatisation et ça ira mieux, ou c'est juste une pure vue d'esprit parce que nos scientifiques nous prévoient ça mais n'arrivent pas à le concrétiser.
Je pense que par rapport à ça, c'est comme tout. Je pense que David cite pas mal d'exemples où effectivement ça rend plus pénible le travail. Et puis il y a tous ces métiers aussi qui disparaissent, et tant mieux. Enfin, je veux dire, guichetier pour aller retirer de la monnaie. Heureusement, il y a des distributeurs automatiques, et puis tant mieux. Voilà, on supprime des postes de caissier. Enfin, je veux dire, c'est quand même... il n'y a pas plus moins intéressant qu'un poste de caissier. Voilà.
Ça se discute
et on ne les a pas vraiment supprimés.
Je pense que si vous allez...
Ceux actuels, oui.
Si vous allez interroger les caissiers, il n'y en a aucun qui, quand il était petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être caissier à Carrefour. Je peux vous dire que pour avoir...
J'ai été caissier chez Carrefour.
Comment?
Il se trouve que j'ai été caissier chez Carrefour pendant mes études, et qu'à la caisse à Carrefour, ce qu'on a automatisé, c'est toutes les tâches administratives que traitent les caissières auparavant avec la caisse automatique, ce qui fait que le travail est beaucoup plus rapide, très intense, qu'on a très peu d'autonomie. Et aujourd'hui, avec les caisses automatisées nouvelle génération, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne fait pas vraiment disparaître la caissière, et c'est toujours ça en fait. On ne fait pas disparaître le travail, on le transforme. On se retrouve avec une caissière qui contrôle 6, 10 caisses en même temps, et aujourd'hui toutes les caissières vous diront que c'est le pire job du supermarché, la caisse automatique. C'est le plus difficile, c'est le plus contraignant, on est toujours face à des clients qui se plaignent et parce que les machines marchent pas bien et qu'il faut toujours intervenir. Et là, dans ce cas-là, on crée une tâche qui est très pénible.
D'ailleurs, pour exemple, dans les caisses automatiques, maintenant, les caissières qui avant passaient de poste en poste pour expliquer comment ça marche ont un pupitre général un peu loin où ils débloquent les choses et n'interviennent même plus, et on n'a plus cette proximité au client et cette interaction. Donc, voilà.
Non, tout à fait.
Non, mais on a tous en tête, je pense aussi, l'image de Chaplin en train de serrer des boulons. Il y a une part, je veux dire, qu'on puisse remplacer certaines tâches physiques, manuelles, liées à la division du travail, à la forme de taylorisme, etc. Bon, c'est très bien. Après, la problématique, c'est sur ce qui reste, effectivement, comment on s'organise. Voilà. Et comme de toute façon, le principe dans une entreprise capitaliste, c'est un lien de subordination où le salarié n'a pas son mot à dire sur, bien entendu, son salaire, mais aussi l'organisation du travail, parce qu'on peut effectivement rendre... Et souvent, d'ailleurs, les études qui sont montrées, c'est moins... c'est pas le travail qui est pénible, c'est les conditions dans lesquelles s'effectue le travail... les gens qui étudient ça de très près, Dominique Méda, des gens comme ça qui ont vraiment étudié sur le terrain, ils disent que voilà, c'est la manière dont la violence du management qu'il y a derrière, c'est l'intensification des cadences, c'est etc. Parce que voilà, moi je vois très bien, j'ai travaillé dans une entreprise de transport là récemment. Bon, ben les mecs, ils attaquent à 6h30, ils bossent 12h, 15h par jour. Voilà. Alors, effectivement, avec.
Et là, c'est pas forcément lié à l'automatisation. Et c'est là qu'on voit que.
Oui, mais alors.
Derrière l'organisation.
Mais l'automatisation a intensifié le travail.
Est-ce que ça permet de mieux le suivre aussi?
Comment?
Ça permet de mieux le cadencer, de le mieux le mesurer.
Le problème, c'est quand au lieu que ces gens-là bossent 4, 5 heures par jour avec effectivement une intensification réelle où on est plus productif, plus efficace, le problème, c'est quand ça devient 15 heures, c'est plus, voilà, ça devient, à partir du moment où on intensifie le travail, il faut le réduire. Et c'est pas ce qu'on constate. Voilà.
Est-ce que David, vous voyez un lien entre l'automatisation et l'individualisation des tâches et du coup l'augmentation de la responsabilité individuelle de son travail par rapport à des tâches avant qui étaient plus collectives et du coup ça joue sur la conception qu'on se fait du travail et aussi sur le rapport de force forcément entre l'employé et l'employeur.
La machine, l'automatisation, l'informatisation, elle individualise le travail. Et c'était le cas dès le début. On a parlé tout à l'heure de faire disparaître l'ouvrier de Charlie Chaplin avec les boulons. C'est ce que nous dit aujourd'hui, ce que nous promet l'automatisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ouvrier de Charlie Chaplin, c'est déjà de l'automatisation. Et déjà, à l'époque, c'est présenté comme un grand progrès. En fait, on a quelqu'un qui fait des gestes répétitifs devant un tapis, sauf par Chaplin et par d'autres, et heureusement, c'était critiqué. Aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, on peut reproduire ce phénomène-là de l'ouvrier de Chaplin sur des tâches qui, normalement, n'étaient pas concernées par ça. Un cas très typique, c'est les call centers. Aujourd'hui, les employés des call centers, ils ont un casque sur les oreilles, un micro devant la bouche, et sur leur écran d'ordinateur, ils doivent suivre un script vocal. C'est-à-dire qu'on leur indique des phrases qu'ils doivent répéter, et même selon ce que vous répondez, vous, en tant que client au téléphone, ils ont des conversations à suivre, et à chaque fois, il y a des mots qui s'affichent avec des scripts à suivre. Donc on arrive à reproduire ça, d'imposer des normes
forte,
à des travailleurs, qui du coup ont plus d'autonomie. Et ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, c'est qu'ils ont plus de responsabilités, que aujourd'hui on mettrait les travailleurs, ouvriers, employés, peu importe, face à leurs responsabilités, qu'ils auraient plus de responsabilités dans les entreprises. Non, aujourd'hui, l'ordinateur, c'est un outil bureaucratique en fait. Ça impose des normes. Ça impose des normes bureaucratiques à tous les niveaux. Quand on est soumis à des normes bureaucratiques, on n'a pas de responsabilité. C'est le propre de la bureaucratie d'évacuer la responsabilité individuelle. Et aujourd'hui, ça, c'est un phénomène qui se produit partout, dans de très nombreux univers de travail. La seule chose pour laquelle on est responsable, c'est de respecter les cadences, respecter les quotas. Et ça, pour le coup, l'ordinateur est très puissant parce qu'il les contrôle en permanence et en temps réel.
Et tu vois, sans vouloir polémiquer inutilement, j'ai formé des call centers. Et si tu veux, effectivement, on a un script et les gens doivent suivre un fil conducteur. Mais si ça reste un fil conducteur, ça peut être intéressant parce que c'est une démarche à suivre, une démarche qualité, voilà, en fonction de tel cas, on est orienté sur tel script, etc. Et puis après, à chacun de prendre sa part de liberté pour humaniser la chose et puis rester, si tu veux, dans un dialogue, convivial avec la personne au bout du fil. Le problème, c'est que ça se passe pas comme ça.
Bien sûr.
Il y a aucune possibilité de savoir. C'est-à-dire que ça doit être 3 minutes, pas plus. 3 minutes par appel. C'est-à-dire que les mecs, ils sont fliqués, ils ont peut-être des cadences à suivre, et ça devient l'oppression totale. Parce qu'en plus, ils sont sur écoute, voilà. Et donc,
c'est bien l'informatique qui permet tout ça, quand même.
Et c'est l'informatique qui permet effectivement des outils de contrôle, de sur-contrôle, de traçage, voilà. Et c'est là où ça devient, parce que, et surtout quand on fait ça 8 heures par jour. Hein, c'est la folie. Donc, si encore on faisait ça 4 heures dans la journée et puis que on avait la possibilité une forme d'autonomie de s'approprier l'outil, etc.
On sent déjà là qu'avec Fred on va bientôt parler de réduction de temps de travail et de partage du travail.
Et du coup, avant d'aborder cette partie, je vous propose une petite pause musicale avec La fille du prisonnier de Adrian Poli.
C'est moi la fille au prise unique, je fais.
Bonsoir encore, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic est consacrée au travail, à l'automatisation et à d'autres choses aussi. Avec nos deux invités, Frédéric Luteau et David Gabriel. Je n'y arriverai.
On a beaucoup parlé d'automatisation et de conséquences sur les tâches, sur le côté individuel. Plus maintenant aborder les questions des conséquences sur l'emploi, sur d'un point de vue plus macroéconomique. Voilà, autant le rapport à la réduction de la pénibilité qui paraissait évident tout à l'heure, sur le côté emploi, la première chose qui vient à l'esprit peut-être, c'est que l'automatisation détruit des emplois, puisque il y a des emplois, des métiers qui disparaissent. Il y a des théories de la destruction créatrice, ça en détruit, mais ça aussi créer de nouveaux besoins grâce aux progrès techniques dans d'autres domaines, et ça va créer de nouveaux emplois. Le problème peut-être que ce sont pas forcément les mêmes personnes qui vont pouvoir occuper ces emplois, puisque les emplois détruits sont peut-être plus des travailleurs moins qualifiés, et les nouveaux emplois créés requièrent peut-être plus de qualifications. David, vous, dans vos terrains d'études, est-ce que vous rencontrez un peu cette problématique ?
Alors oui, en fait, je pense que c'est intéressant de revenir sur le fait qu'on parle beaucoup aujourd'hui de perte des emplois avec les robots qui sont censés advenir. Ça vient beaucoup d'une étude américaine qui a été faite il y a quelques années à l'université d'Oxford, et qui avait l'air très sérieuse avec beaucoup de statistiques, et qui annonçait que dans une vingtaine d'années, un emploi sur deux allait disparaître avec l'automatisation. Elle était énormément reprise. Alors que bon, une étude statistique prospective.
C'était il y a 20 ans, donc on a pu vérifier que...
Non, c'est dans 20 ans.
Là, c'était, donc c'est une étude récente.
C'est une étude récente.
40% qui, voilà, des emplois détruits aux États-Unis.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est une étude très récente qui a été beaucoup, beaucoup reprise. En fait, quand on fait de la prospective en économie ou en statistique, on essaye de prévoir à 20 ans.
On se plante souvent.
Non seulement on se plante souvent, mais en fait, on sait pas ce qui va se passer. On sait pas du tout. Et cette étude, depuis, elle a été beaucoup critiquée. Alors à la fois beaucoup reprise dans les médias, beaucoup critiquée par d'autres. Tout le monde a dit que non, c'était largement exagéré. Après, il y a des gens qui ont dit que c'était encore pire. Donc voilà, il y a eu tout un emballement autour de ça. Bon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur une trajectoire qu'on connaît au moins de 50 ans, on peut prendre depuis la Seconde Guerre mondiale, on a un progrès technique très important, avec des hausses de la productivité très importantes, des secteurs entiers qui ont perdu beaucoup d'emplois, comme l'agriculture. Pour autant, les 10% de chômage qu'on observe aujourd'hui, a priori, sont pas liés à l'automatisation. C'est pas ça qui a créé du chômage, c'est autre chose, mais c'est pas forcément ça. Est-ce que ça va en créer dans les années à venir ? Peut-être. Aussi massivement que ce qui est dit, certainement pas. En fait, c'est très largement exagéré. Et en tout cas, voilà, sur une période longue, on n'a pas de disparition du travail avec l'automatisation. Ça, c'est de la
prospective. Disparition du travail, mais enfin, aujourd'hui, pour produire un avion ou une voiture, il y a quand même besoin de moins de personnes. Quand on voit les tailles des usines automobiles avant-guerre et aujourd'hui, c'est des effectifs réduits par...
Mais pour se faire livrer un produit chez soi en temps et en heure, juste après avoir cliqué sur Internet, il faut des gros entrepôts avec beaucoup d'ouvriers. Et par exemple, les ouvriers de la logistique, donc tous ces ouvriers dans les entrepôts, c'était seulement 8% dans les années 80 des ouvriers. Aujourd'hui, c'est 15%, près de 15% des ouvriers. Donc il y a un secteur ouvrier qui a explosé.
Là, c'est la destruction créatrice. Ça a créé...
Peut-être, oui. Alors, du coup, c'est vraiment un terme d'économiste que je reprendrai pas. Mais voilà, en tout cas, il y a des secteurs qu'on grossit grâce à ça. Et c'est pas des secteurs très qualifiés. C'est des secteurs très ouvriers. C'est 80% de l'emploi de logistique, c'est des ouvriers. Donc c'est un secteur ouvrier qui a beaucoup augmenté. On aurait pu citer, donc c'est que la logistique sans le transport. Dans le transport, on aurait pu citer les livreurs de Deliveroo et autres qui nous livrent nos plateaux repas à la maison. Ça aussi, c'est de l'emploi très récent, lié à l'ubérisation, lié à l'informatique, et c'est pas des emplois qualifiés.
Mais le problème, c'est que après-guerre, on était quand même dans une situation de plein emploi, et depuis les années 70, ça reste un mirage, qu'on n'est pas près de le retrouver.
Non, on n'était pas en situation de plein emploi, parce que si tu veux, après les années 70, les femmes étaient beaucoup à la maison, voilà. Et elles n'étaient pas sur le marché du travail comme elles le sont aujourd'hui.
C'était une définition du plein emploi de l'époque. Quoi.
C'était une définition très spécifique du plein emploi de l'époque. Voilà. Moi, je vais un petit peu contester les propos de David. Ce qu'on constate quand même depuis les années 50, voilà, depuis l'après-guerre, c'est que le PIB il a augmenté de 800%, a été multiplié par 8. Voilà, c'est-à-dire que on a eu une productivité très très forte. Voilà, on produit de plus en plus. Voilà, et on constate aussi qu'on le produit de plus en plus avec de moins en moins de travail humain. C'est-à-dire que le volume d'heures travaillées, d'accord.
Le volume global à l'échelle
global
pas,
à l'échelle
individuelle
sur la France hein. Ces études qui sont voilà, c'est assez fiable quand même, ça se joue
malgré l'augmentation de la population et comme tu disais le les femmes qui sont
alors là, c'est là où il faut distinguer travail et emploi, d'accord. Le travail, c'est le temps qu'on passe à la production de biens et de services, d'accord. Donc le travail, lui, il a diminué de 12%. Le volume, c'est des milliards d'heures travaillées en moins, d'accord. Par contre, la population active, elle a augmenté, hein, elle a augmenté de 23%, d'accord. Et pourtant, il y a plus de gens qui travaillent que dans les années 50. Pourquoi? Parce que il y a eu une diminution du temps de travail aussi, d'accord. Il y a moins d'heures travaillées. Et puis, si on travaille individuellement, chacun moins. Hein, non. Alors c'est pas lié uniquement la diminution du temps de travail, elle est pas liée essentiellement à l'automatisation. Bien sûr, ça joue, hein, c'est évident.
C'est les luttes sociales notamment.
Comment ?
Les luttes sociales notamment, plus que l'automatisation, ont permis de diminuer le temps de travail.
Alors non, mais c'était pas là où je voulais en venir, c'est-à-dire que si oui, bien sûr, les luttes sociales essentiellement, les luttes sociales, parce que si on attend que le patronat nous réduise notre temps de travail, on peut courir, on peut attendre longtemps. Mais je veux dire, c'est la diminution du volume d'heures travaillées n'est pas liée uniquement au gain de productivité lié à l'industrialisation, c'est aussi la salarisation. Il y avait beaucoup d'indépendants, voilà. Aujourd'hui, la salarisation, les gens sont de l'entreprise. Hein, aujourd'hui, c'est 93% de salariés en France. C'est la quasi-intégralité. C'est epsilon, les indépendants, aujourd'hui. Hein. Les gens qui ne sont pas salariés dans une boîte, c'est-à-dire qui ne participent pas à une division du travail au sein même d'une entreprise. Hein. Voilà. Donc, ça a énormément aussi économisé du travail et ça a débouché sur des gains de productivité et très importants. Voilà. Donc, il faut savoir que plus on avance dans le cadre, alors attention, dans le cadre de notre économie capitaliste. Parce que le travail, ça a une définition assez précise aujourd'hui, hein. Le travail, c'est ce qui valorise un capital, d'accord, ou qui est dans la comptabilité nationale, c'est-à-dire un fonctionnaire travaille parce que effectivement son salaire est comptabilisé dans la comptabilité nationale, ou qui, si vous allez tondre le jardin de votre voisin parce qu'il est sympa, vous travaillez pas, d'accord. Si vous gardez les enfants de votre belle-mère, vous travaillez pas. Si comment ?
Ou ses propres enfants.
Voilà, voilà. Le travail, là, vous n'êtes plus dans le cadre du travail. Pourtant, vous savez très bien que quand vous payez une babysitter, elle travaille. Quand vous payez un gars jardinier, il travaille. Il doit travailler à partir du moment où lui, il rentre dans le cadre de la valorisation du capital.
Il génère un salaire.
Un salaire, etc., etc. Bon, vous essayez bien ce qu'on appelle le travail dissimulé des femmes, toutes ces femmes au foyer qui travaillent. C'est des milliers de femmes où c'est du travail non reconnu.
Les aidants,
comment ?
Les aidants,
etc., etc.
Vous êtes la population.
Donc bon, dans le cadre, est-ce qu'on va dire l'essentiel du travail, c'est-à-dire du travail capitaliste, c'est-à-dire dans la production, hein, la production industrielle, etc. Effectivement, on s'aperçoit qu'on produit de plus en plus avec de moins en moins de travail humain. Voilà.
Alors, quand même, sur la baisse du nombre d'heures, alors on est bien d'accord, la baisse du nombre d'heures de travail, c'est une victoire des luttes sociales. Et les 35 heures, par exemple, c'est intéressant pour ça. C'est une vraie victoire des luttes sociales. En même temps, ce qui s'est passé en France et dans d'autres endroits, hein, avec les 35 heures, c'est une très forte intensification du travail. Donc, en fait, on n'a pas gagné de l'énergie qu'on dépenserait moins. On a intensifié le travail et on a concentré sur une période plus courte l'énergie qu'on dépense au travail. Donc le gain, en fait, il est relatif parce qu'il était rattrapé ensuite. Ce qu'il faut dire aussi sur cette idée que c'est pas forcément une libération de temps ou d'énergie, c'est qu'en fait, d'accord, il y a plus de productivité, on peut produire plus vite, mais en retour, et ça c'est vraiment la logique du capitalisme, hein, on consomme plus, on se déplace plus, On fait plus de communication, par exemple. Le mail, c'est un très bon exemple de ça. Envoyer un mail, c'est beaucoup plus efficace qu'envoyer une lettre. On est tous d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on envoie des dizaines et des dizaines de mails par jour, de SMS par jour, alors que dans une lettre, en fait, on pouvait concentrer la communication d'une semaine entière en un seul morceau de papier. Et en fait, on n'a pas vraiment gagné du temps. On a démultiplié nos activités sur de la communication, et aujourd'hui on se rend compte que ça nous prend énormément de temps. Donc c'est pas forcément un gain de temps, au final il faut se méfier. La logique capitalisme fait que les gains de productivité se traduisent pas forcément en des gains d'énergie ou du temps qu'on aurait de libérer. C'est pas forcément le cas. Et même si on peut parfois libérer un petit peu de temps, la vraie question c'est est-ce qu'on est prêt à travailler 4 heures par jour de façon extrêmement intense sur un métier complètement abrutissant et inintéressant pour se libérer du temps à côté? Moi, j'estime que le travail, ça peut être intéressant. On l'a dit tout à l'heure, hein, ça peut susciter plein de choses, de travailler, de produire des choses. Et moi, j'ai plutôt envie de travailler 8 heures sur des choses qui soient agréables, intéressantes, plutôt que de me dire, pendant 4 heures, j'éteins mon cerveau pour ensuite garder du temps et faire je ne sais quoi.
Du coup, c'est la question, c'est est-ce que l'automatisation à l'heure actuelle, et on a tendance à dire qu'elle est mal orientée, est-ce qu'il faut... C'est ça le problème, c'est qu'elle est orientée par un système capitaliste qui fait que on produit pour plus produire et qu'on est dans un cercle à la consommation et que c'est ça le problème de l'automatisation à l'heure actuelle.
Alors c'est pas forcément un problème du capitalisme. Hein. Le capitalisme en fait une forme particulière, sauf que l'automatisation sous toutes les formes dont on a parlé déjà avec tous les exemples qu'on a donnés, pourrait très bien exister sous un régime communiste. Hein. Le communisme n'était pas connu dans ses applications historiques en tout cas pour être un ennemi des machines ou se méfier de ça. Non, c'est une logique qui est au-delà de ça. La logique du progrès technique, le modernisme, le progressisme, de chercher tout le temps à présenter le progrès technique comme la solution à tout, ça va au-delà d'une logique simplement capitaliste. C'est plus que ça.
C'est-à-dire, on a une vision aussi depuis tout le temps, oui, mais les micro-ondes, c'est dangereux. Il y a aussi ce mouvement contraire, comme peut-être un peu les canuts, c'est ça, qui est contre par principe le pro. Est-ce que l'automatisation, c'est le progrès? Est-ce qu'il faut être contre le progrès? On abordera plus ça dans la dernière partie en conclusion. Ouais. Mais
les canuts, ils avaient bien compris que ça changerait leur mode de vie.
C'est ça.
C'est pour ça qu'ils réagissaient aussi.
Voilà, tout à fait. Ils n'étaient pas contre l'automatisation, ils voulaient garder la main sur l'organisation de leur travail. Toute la question, c'est qui décide quoi. Voilà. Le capitalisme, ce qui crée la valeur, c'est le travail. Donc le capitalisme, il l'a compris. D'accord. Donc si à un moment donné, ce qu'il veut, c'est intensifier le travail pour que de pouvoir produire, de pouvoir créer de plus en plus de valeur sur une personne. Donc c'est cette logique qui est en œuvre depuis sa création. Hein. Je veux dire, quand on remplace les premiers métiers à tisser en Angleterre, où les mecs ils bossent, voilà, ils bossent comme des fous. Enfin, l'espérance de vie des ouvriers anglais s'effondre. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Donc aujourd'hui, c'est intensifier le travail. Les machines ne sont que l'extension. Hein. Ce n'est que l'extension. C'est du travail mort. C'est du travail mort. C'est-à-dire que ce n'est que l'extension de la production d'un individu. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on intensifie le travail, et après, si on n'a pas la main sur pour décider de ces conditions de travail. Voilà, on est complètement piégé parce que un actionnaire, lui, il va demander des gains de productivité de plus en plus haut pour pouvoir capter ces gains de productivité. Voilà. Mmh. Éliminer un maximum, évacuer, c'est le double face du capitalisme. On élimine du travail, mais en même temps, on élimine la source de la richesse. Donc, ce qu'on garde, il faut l'intensifier au maximum. Voilà.
Avant d'enchaîner sur la suite qui se relève à... Ce qui annonce passionnante au vu de ce qu'on vient de se dire, je vous propose une petite pause musicale. Je marche seul de Mano Solo.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou. Et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic et toujours consacrée au travail et à l'automatisation avec nos deux invités Frédéric et David. La chanson était bien sûr Le point sonore des Lilas et non. Ah bon ? Et non, Je marche seul de Mano Solo.
Alors dans cette dernière partie, on va essayer de faire un peu de prospective, même si on a des grandes chances encore de se planter, comme les études qu'on évoquait tout à l'heure. Mais en gros, est-ce que dans les années à venir, et à mon avis, il y a une part de... aussi, on va rentrer dans la dimension politique, parce que c'est pas que résultat de mécanisme d'un système. Est-ce qu'on va travailler moins grâce à l'automatisation?
Alors, si tu permets, je vais un peu détourner la question. Parce qu'en fait, ouais, non, moi j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que sera le futur. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on essaie de nous faire croire actuellement ce qu'il sera, quoi. Moi, j'ai encore la prétention de croire qu'on peut faire évoluer l'histoire, qu'on sait pas comment elle va se dérouler, qu'il n'y a pas un fil linéaire et que les luttes sociales, par exemple, peuvent modifier le cours de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il y a une offensive idéologique très forte pour nous montrer un futur qui serait désirable, et ce futur, c'est un futur avec plein de robots. Et ça, en fait, c'est pour ça que je vais éviter de parler du futur, c'est parce que ce discours-là, actuellement, il a déjà un impact, il est déjà performatif. Il sert notamment à invisibiliser toute une partie du capitalisme, le monde ouvrier, puisqu'en fait, on voit déjà les robots du futur, on oublie qu'en fait, c'est des ouvriers qui fabriquent nos smartphones et qui font circuler nos colis. Et voilà, tout ça, ça a déjà un impact, ça a déjà une force idéologique, et il faut réellement s'en méfier.
Du coup, Frédéric, cette vision du futur, est-ce que l'automatisation nous emmène dans une bonne voie? Et est-ce qu'on est dans la bonne voie à l'heure actuelle sur cette partie-là?
Je répondrai un peu comme David. Ça dépend ce qu'on en fait. Voilà, ça peut être effectivement formidable de mettre en œuvre toutes les innovations technologiques. D'ailleurs, je crois qu'il y a des études qui sont parues. Le capitalisme aujourd'hui ne met en œuvre que 30% des innovations technologiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il n'y voit pas des gains de rentabilité suffisants pour les utiliser. Voilà. Donc voilà, je pense que si demain on est dans une société socialiste, c'est-à-dire débarrassée de capitalistes et de d'actionnaires, des gens qui sont là pour extraire, voilà, pour s'approprier la valeur, voilà, pour extraire la valeur du monde ouvrier, si demain on est dans ce que je appellerais la copropriété d'usage, c'est-à-dire que ce sont les salariés qui sont propriétaires de leurs moyens de production, qui décident de leurs conditions de travail, de leur salaire, avec évidemment les parties prenantes, c'est-à-dire les citoyens, etc., pour répondre aux besoins sociaux, etc. Je pense que on automatisera encore plus, à mon avis, beaucoup plus de tâches à des fins beaucoup plus bénéficiaires pour le monde du travail, que on pourra désintensifier certaines cadences, même si certaines continueront à être intenses. On diminuera le temps d'intensification sur la journée, et puis on fera ce qu'on fait depuis le début du capitalisme, c'est-à-dire que on diminuera le temps de travail suffisamment pour que on puisse se libérer du temps pour tout le monde. Et puis ce qui est important aussi, c'est je pense que c'est un petit peu vers là qu'on s'oriente, en tout cas c'est ce que je trouve, moi, un futur désirable, c'est que on ne consacre pas toute sa vie à la même activité. Voilà. C'est déjà ce dont se plaignait Marx au 19e, c'est-à-dire que des gens qui deviennent monotâches, hein, qui se déshumanisent parce que la division du travail ne les affecte qu'à une fonction. Et alors que l'homme est fait justement pour pouvoir se déployer sur plein de territoires d'activité intellectuelle et physique. Et c'est-à-dire que voilà, dans notre semaine, on pourra effectivement faire peut-être de la gestion, mais aussi de la manutention, on pourra aussi faire de la musique, on pourra aussi se consacrer voilà à toutes les à d'autres activités intellectuelles et, voilà faire de la communication, de la gestion, enfin on pourra vraiment mettre en œuvre son potentiel. Et ça veut dire une autre organisation du travail qui soit pas évidemment conduite par le simple objectif de rentabilité qui est destructeur, complètement destructeur, parce qu'on produit de plus en plus et on voit bien qu'on en fout la moitié à la poubelle, d'accord, et que on est en train d'épuiser nos ressources naturelles. Enfin, on est dans un monde qui est complètement déliant.
Et justement, moi, je crois qu'il y a un point très important à rappeler. Aujourd'hui, on nous présente la robotisation comme une rupture. On serait en pleine rupture avec le passé, et on basculerait vraiment vers autre chose. Non, ça c'est vraiment faux. La robotisation, c'est la continuité d'un monde industriel. On est d'accord, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on dénonce les défauts du monde industriel. Tu l'as dit, hein, la pollution, le travail pénible, et la solution qu'on nous propose, c'est plus d'industrie. Parce que c'est ça les robots, c'est plus d'industrie. Moi je suis pas sûr que le plus d'industrie il puisse répondre à ces problèmes-là. On est vraiment dans la continuité d'un modèle capitaliste et socialiste également, c'est pas vraiment contradictoire, qui promeut l'industrialisation de nos sociétés, du travail, de nos modes de vie, de nos modes de consommation. Et la grande promesse de ça, et une des choses qui est très vendeuse pour ça aujourd'hui, c'est de dire on va diminuer notre temps de travail. Alors effectivement, c'est tentant, on en a déjà parlé, on a déjà dit, hein, il y a quand même intensification, c'est pas tout à fait une diminution. Moi vraiment, je me pose la question. Tout à l'heure, tu disais, ce qui est important en fait, c'est de garder la main sur son travail. Et c'est comme ça qu'on devrait critiquer la technologie, de dire, ok, tant que je garde la main. Moi je pense que une tâche qu'on faisait auparavant en 12 heures et qu'on pourrait faire aujourd'hui en 4 heures, on ne gardera pas la main sur cette tâche. Si on peut la faire en 4 heures et non en 12 heures, c'est parce que des machines l'encadrent à vitesse extrêmement rapide et que l'humain dans tout ça est complètement sous contrôle.
C'est le point sur lequel je voulais arriver aussi. C'est comment éviter cet écueil de l'automatisation comme moyen de pression sur les salariés, sur en diminuant encore une fois, je le disais dans l'intro, sur voilà comment garder le bien-être alors qu'on voit que l'automatisation est poussée par plus haut.
Il faut. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment s'autoriser aujourd'hui à critiquer le progrès technique, à dire ce qui dans le progrès technique nous va et nous va pas. Et dans l'entreprise, il faut des instances pour ça. Elles existent de moins en moins. On fait disparaître, là, avec la loi travail XXL, les CHSCT. C'est une catastrophe de ce point de vue-là. Le CHSCT, les comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, c'était, même si c'est pas un outil miraculeux, c'était au moins un lieu dans l'entreprise. On pouvait discuter des nouvelles technologies qui arrivent dans le travail et qu'on nous impose. On pouvait en discuter à la marge, mais au moins on pouvait en discuter. Et ça disparaît. Et en fait, tous les espaces de discussion sur les nouvelles technologies disparaissent. Aujourd'hui, de critiquer le progrès technique, c'est devenu hyper difficile dans l'entreprise comme ailleurs. Hein, c'est complètement illégitime. On est tout de suite accusé de passéisme, d'être rétrograde, réactionnaire. Et vraiment, le discours là-dessus est complètement bloqué. On empêche les gens d'en parler, alors qu'il y a un enjeu essentiel à pouvoir en parler.
Et du coup, est-ce qu'on va dans le bon sens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce marché du travail nous corresponde mieux? Est-ce que
plus de pouvoir aux salariés? Bah, c'est la bataille depuis. Voilà, depuis la Commune, depuis la Révolution française, c'est histoire du salariat. C'est comment on va reprendre le pouvoir sur l'outil de production. Voilà. Est-ce que on est simplement soumis à un lien de subordination lié à des propriétaires par action qui s'approprient la valeur, voilà, hein, ou on se réapproprie effectivement la production de valeur. Et ça, pour se réapproprier de la valeur, il faut se réapproprier son outil de production et installer voilà une organisation démocratique, voilà. Et ça, une organisation démocratique, ça veut dire c'est la fin du capitalisme, c'est-à-dire qu'on est face à une dictature du capital, voilà. Vous êtes dans la démocratie, vous rentrez, il y a pas de démocratie dans l'entreprise, enfin vous le savez aussi bien que moi. Dès que vous passez franchissez la porte de votre entreprise, c'est terminé. Vous n'avez qu'un droit, c'est celui d'exécuter la tâche pour laquelle vous avez pour laquelle vous avez signé un contrat. Et puis comme l'a rappelé David, l'employeur est censé avoir quelques devoirs quand même vis-à-vis de ses salariés, et on les enlève de plus en plus. Le CHCT, qui était effectivement cet espace qui avait été conquis par le salariat, par les luttes sociales, pour effectivement pouvoir rééquilibrer un petit peu les choses, bah on les fait disparaître, voilà. Et puis l'ubérisation, c'est ça, c'est-à-dire que toute l'histoire du salariat, c'est d'acquérir un droit du travail qui puisse défendre ses intérêts et rééquilibrer un peu ce rapport de force. Bon, ben, à partir du moment où vous êtes considéré comme un indépendant d'égal à égal, bon, tout ça, c'est une vaste supercherie, comme si vous pouviez avoir égalité entre l'employeur et l'employé.
Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, on a fait une émission sur l'ubérisation, c'est que le pouvoir est détenu par les machines. Encore une fois, sur ce point-là, Uber, c'est une machine qui décide de déréférencer ou non un conducteur sur des bases plus ou moins factuel.
Ça, c'est hyper impressionnant, le côté, plutôt que de licencier, on a juste à déconnecter les gens.
C'est ça.
Ça, c'est aussi un effet de la technologie, de l'informatique. Ça déresponsabilise, ça crée une distance entre le commanditaire, celui qui commande, et le salarié, et ça déresponsabilise le commanditaire qui est juste à déconnecter les gens pour qu'ils disparaissent.
Et le commanditaire, c'est un programmeur à qui on donne une ligne de code à mettre.
Et qui, lui, peut pas regarder ce qui se passe. Mais ce qui a été dit de défendre les métiers, ça, c'est vraiment un truc très important. Et pour défendre les métiers, il faut arrêter de faire croire qu'ils vont disparaître. C'est faux.
On arrive bientôt à la fin de cette émission. Je voulais, en quelques secondes, quel serait votre mot de la fin? J'aime bien poser cette question un peu vaste, mais en 30 secondes, je vous laisse, je meuble un petit peu pour que vous y réfléchissiez. Qu'est-ce que vous voudriez dire comme mot pour conclure cette émission?
En deux mots, critiquons la technologie, critiquons les machines. Défendons nos métiers, nos activités, et regardons bien à chaque fois ce qui est impacté dans le concret aujourd'hui, et arrêtons de regarder trop loin les rêves qu'on nous met sous les yeux.
Frédéric.
Oui, je reprendrai ce que je disais. Je veux dire que donnons pleinement sa place à la technologie si elle est sous le contrôle démocratique des salariés. Voilà. Bon. Si elle est simplement au service de quelques individus qui n'ont que pour simple objectif l'intensification du travail pour obtenir des gains de productivité, ça va être une catastrophe. Parce que ce sont des outils de contrôle, c'est des outils de pression, c'est des outils d'aliénation. Ça peut se transformer dans un cauchemar, complètement.
Comme souvent dans nos émissions, on voit qu'on peut partir d'un thème technique ou économique et que derrière, il y a toujours du politique. Et que s'il n'y en a pas, c'est mauvais
signe.
C'est pas
normal.
Et que aussi voilà. on a
Mon
aussi
mot
du
de la
pouvoir.
Fin, c'est que la technologie, c'est aussi du politique.
C'est politique, c'est extrêmement. Politique.
Et voilà. Qu'on a la main là-dessus, non seulement en votant, mais en consommant au quotidien. Voilà. Avec une vue éthique. Du coup, l'émission touche à sa fin. Merci à vous de ces échanges.
Merci de votre invitation.
Passionnés. Vous pourrez, du coup, on le disait en début d'émission, réécouter cette émission sur le site web de la Fondation Copernic et Mode d'emploi. Et nous retrouvons pour notre prochain créneau sur un thème intéressant qui est l'économie circulaire. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à bientôt.
Bonne soirée.